Les manettes à la baguette sur RCN. Johan Turpin.
Et bonjour Joris.
Bonjour Johan.
L'actualité jeux vidéo, cinéma, série, ça se passe en musique avec des extraits, je ne sais pas forcément ce que Joris a choisi, oui. Il ne sait pas forcément ce que j'ai choisi, on va le découvrir tout de suite avec le mien. Attention, je fais un spoiler, il y a une grosse actualité crossover, oui. Jeux vidéo, cinéma, il y a de grandes chances qu'on parle de ça.
Ouais.
Ah, fameux.
Oui, c'est évidemment le film Super Mario Galaxy.
Et oui, à l'heure de diffusion de cette émission, on va estimer que tous nos auditeurs l'ont vu, parce que ça va spoiler,
peu, ouais.
Voilà,
ouais,
ça
ouais.
Va spoiler sec, donc sinon, coupez tout de suite la radio. Bon, alors, je vais donner mon sentiment.
Ouais.
je pense deux choses. La première, c'est que bon, ce film est un succès au niveau des entrées, ça a très bien fonctionné. Mmh. On comprend pourquoi le premier était une pure merveille. Ouais. Le second va dans la même lignée et va même plus loin dans le fanservice, de mon point de vue.
Ouais.
Ce qui semble d'ailleurs lui être reproché par les spécialistes critiques ciné. Ici, à cette antenne, on est quand même à la fois geek, gamer et cinéphile, bien ouais. sûr. Donc, il faut savoir d'où est-ce qu'on se place, pour parler de ce film. Est-ce qu'on se ouais. place du point de vue du cinéphile ou du gamer qui a envie d'avoir son fanservice et qui le veut ? Moi, je trouve que cette fois-ci, sur l'opus numéro 2, la boussole est bonne parce qu'il fallait qu'elle aille dans une surenchère, il fallait qu'elle aille plus loin. Que ce qui est exposé avec le premier film où il y avait un bon équilibre entre on ne va pas vous raconter mille fois l'histoire et on va quand même essayer de rendre tout ça cohérent. Et là, ils ont choisi d'aller du côté du fanservice très clairement et moins des enjeux. Ce qui fait que si on se dit, moi, je m'attends à être pris par un truc, etc., avec une histoire très profonde, ben, passez votre chemin, ça ne va pas du tout être le cas. Mmh. Voilà. Et donc, je comprends qu'une partie de la presse spécialisée qui dit, c'est pas parce que ça fait des millions d'entrées, c'est pas parce que les enfants aiment que ça en fait un bon film. Ben oui, on est d'accord. Hein, je passe de très mauvais moments quand je vais voir des films de Philippe Lachaud, seulement ça fait des millions d'entrées. Donc, ouais. voilà, sauf son Nicky Larson que je sauve. Mais donc du coup, voilà, moi je suis totalement d'accord avec ça. J'ai pris un grand plaisir, par exemple, à voir Fox McCloud, alors que j'ai un très bon ami qui me dit, moi je ne savais pas du tout qui c'était Fox, à part un personnage de Super Smash Bros. Ouais. Melee, alors que moi je sais parfaitement qui c'est, d'ailleurs ça s'adresse à moi, puisque ouais, ouais. J'ai joué à Star Fox sur Nintendo 64, j'ai joué au Booz qui était sur la GameCube. Bon voilà, j'aime bien Star Fox parce que c'est effectivement un super personnage de Super Smash Bros. Et mon préféré par-dessus le marché. Donc moi je savais qui c'était, j'ai eu toutes les refs musicales, j'ai pu absolument repérer tous les easter eggs du film, donc ça fonctionne, alors que Princesse Harmonie me laisse absolument froid et que j'en ai rien à taper d'une manière générale, ouais. mais dans ce film elle m'a, voilà, ça m'a redoré un peu le blason, donc pour moi c'est ok. En revanche, la question, et j'en terminerai là-dessus, c'est qu'est-ce que ça veut dire du troisième, du prochain qui arrive puisqu'il est teasé. Est-ce qu'on va continuer comme ça à faire l'étalage de tout l'univers Mario? Parce que si c'est le cas, ça va clairement être un produit commercial avec sa boisson, son porte-clés, son sticker, ouais. son poster. Et auquel cas, ben, c'est sûr que moi, je vais être de moins en moins OK avec ça parce que le grand absent pour moi de ce film, on se le disait un peu hors antenne, par exemple, j'aurais adoré voir Wario et Waluigi, c'est ce qui manque.
Ouais.
Là, il y avait vraiment un truc parce que pour ne les vendre, je vais utiliser des termes pas très radiophoniques, mais Wario est un grand méchant, mais aussi un gros dégueulasse.
Ouais.
Son attaque spéciale, c'est un gaz, un paix, voilà. Waluigi a l'air d'être un pingre terrible,
ouais.
sans aucun autre avantage que d'être le bouche-trou des séries sport, des séries jeux de plateau. Bon, ça, c'est intéressant de nous donner un vrai lore là-dessus.
Ouais.
J'ai bien aimé le rapport entre Peach et Harmony qu'on découvre, voilà, dans un monde
oui.
où ce sont les princesses qui dirigent les mondes. Ouais, incroyable, super, très bien, ça marche. Ça tient sur un post-it avec une profondeur de dé à coudre, il n'y a aucun souci là-dessus, mais bon, ça fonctionne. Voilà, ça
ouais.
c'est mon avis, je t'écoute,
ouais,
Joris.
Je suis globalement d'accord avec toi. Moi, dans la salle, en tant que gamer, j'étais forcément ravi de voir toutes ces easter eggs qui nous mèneront forcément d'ici quelques années un film Smash Bros, hein, parce que
bah oui.
je peux vous dire
ouais.
qu'il y en a
ouais.
Vraiment beaucoup, 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 même peut-être un peu trop à mon goût à certains moments. Et si je m'assois en tant que personne qui regarde un film, parce que même si c'est une adaptation de jeu vidéo, ça reste un film, donc le média film, je trouve que visuellement c'est magnifique, les musiques, il n'y a rien à dire, surtout que je trouve
ah oui.
que par rapport
Brian
au premier,
Tyler.
Où le premier
ouais.
c'était vraiment, il y avait parfois des musiques un peu pop, genre Take On Me ou des choses comme ça, là il n'y a pas ça, il n'y avait vraiment que des réarrangements de musique de l'univers de Mario et autres,
ouais.
et j'ai trouvé ça vraiment cool.
Sauf pour le très bon passage du petit lore.
Oui.
Muet de Yoshi.
Oui, voilà.
Voilà.
Sauf pour ça.
Ouais.
Mais encore, même là, c'était juste l'instrumental, il n'y avait pas de paroles. Enfin, je veux dire, il
oui,
n'y avait pas des chansons
ouais.
à proprement parler. Donc, j'ai trouvé ça un peu mieux par rapport au premier. Mais je trouve que dans le reste, ça prend un peu les défauts du premier qui sont que globalement, l'histoire, ça reste assez plat et que je voulais une évolution de certains personnages. Et à part Peach, où, comme tu disais, ça reste quand même assez voilà, hein, minime, j'ai trouvé que beaucoup de personnages étaient laissés de côté et que pour un film Mario Galaxy, ben, on n'était pas tant que ça dans Galaxy. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Il y avait plein de scènes qui me dérangeaient un peu, où j'étais en mode, bon, bah ça, on aurait pu s'en passer. Je passe à notamment la scène avec le T-Rex. Enfin, moi,
oui,
ça
oui,
va,
oui,
voilà.
Oui, oui.
Mais j'ai trouvé que pour qu'un film qui s'appelle Mario Galaxy, Mario était pas tant que ça dans l'univers un peu Galaxy. C'est le truc qui me dérangeait. Et je pense que c'est, comme tu disais, le truc que dérangeait beaucoup de personnes. C'est qu'au niveau de l'histoire et en tant que média film, bah, ça aurait pu être un peu mieux.
Oui, c'est vrai. Mais c'est là où c'était très compliqué avec celui-ci. Les deux, de toute manière, sont généralement des mal-aimés. Hein, Indiana Jones 2, etc. On peut pas en parler. C'est compliqué. Et en même temps, Nintendo a quand même un plan commercial. On le voit, on l'a souvent dit. Regardons ce qui se passe avec Pokémon.
Ouais.
Ça fait sourire. Donc je pense que ils ont on a compris qu'on est dans de l'exploitation de licence.
Ouais.
Et pourquoi est-ce qu'on leur donnerait tort? Parce que ça marche, parce qu'au final, c'est ça. De quoi vivent les salles de cinéma? Il faut des gens qui viennent,
oui,
qui achètent des billets. Donc, eux, ils ont donné un produit qui est super pour le cinéma.
Ouais.
Ça, c'est pas grave, hein. Ça fait du monde qui rentre, qui paye des billets, puis qui va nourrir le CNC, ce qui permettra d'avoir des films de qualité derrière, de toute façon. Nintendo a fait son travail, on voit bien ce qu'ils ont envie de faire. Bon, voilà, allez. Moi, je suis fan.
On verra la suite.
Je confesse que je suis allé le voir deux fois tellement j'ai pas boudé mon plaisir parce que pour toutes les raisons qu'on a dit, voilà, ça fait plaisir d'aller au Burger King, mais si le lendemain il y a un pote qui dit viens, on va au KFC, on dit jamais non. Donc moi, voilà, je me suis mis là-dessus, sachant que c'était pas de la haute gastronomie, c'est que c'est pas ce que j'en attendais.
Ouais.
Allez, on peut enchaîner. Pirates des Caraïbes, le thème
Bravo.
De Jack Sparrow Zimmer. En même temps, si je ne c'est trouvais ça. Pas, je perdais toute légitimité à ce micro.
Exactement, c'est le thème de Jack Sparrow qui apparaît que à partir du 2, donc le coffre maudit. Pourquoi je parle de ça déjà parce que, bon, c'est une bonne musique.
Oui,
c'est Hans Zimmer, mais il faut aussi rappeler qu'il y a Badelt hein, qui est avec lui.
Eh ben, oui, Klaus Badelt, je l'ai souvent dit ici.
Ouais.
Il faut lui donner toute sa place.
Bien sûr, il ne faut pas oublier. Et le coffre maudit qui est sorti en 2006, donc déjà, ça fait 20 ans.
Absolument.
Donc, joyeux anniversaire à Pierre des Caraïbes 2. Il y a aussi plein de rumeurs sur un potentiel film, une suite en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Qui reviendrait? Est-ce que Johnny Depp reviendrait? Enfin, voilà, c'est des grandes questions. Mais je voulais parler d'un petit film, un fan film.
Oui.
Qui va sortir donc en 2027, où il y a une bande-annonce qui est sortie, ça s'appellera Pirates des Caraïbes, les secrets de la lampe. Et en fait, c'est réalisé par un Hongrois, voilà, qui est très fan de l'univers de Pirates des Caraïbes, et qui, de l'aide de Internet, avec des crowdfunding, des choses comme ça, a réussi à tourner un film pendant 4 ans quand même. Hein, et donc la bande-annonce est sortie. Et ça se veut un peu comme une suite directe du dernier, qui était La Vengeance de Salazar, là.
Oui.
Mais ça a l'air très très intéressant, surtout qu'en plus, il y a des fan-films qui ont des très bonnes qualités.
Oui.
Et du coup, je trouvais ça sympa de mettre ça en avant, un petit fan-film comme ça qui sort sur Pierre des Caraïbes.
Ce qu'il y a d'intéressant justement sur des grosses licences comme ça, c'est quand les fans s'en emparent.
Oui.
Et arrive à proposer des choses géniales avec de la créa, etc. Alors, c'est plus difficile d'avoir toute légitimité dans le monde du film quand ça arrive. Mais par exemple, si on transpose ce genre d'événements spontanés et d'initiatives dans le jeu vidéo, quelquefois, ça devient canon.
Oui.
Moi, je sais que, par exemple, pour la licence que je préfère, une de mes licences qui était un petit jeu indé qui est devenu un gros truc comme Binding of Isaac, il y a des gens qui avaient créé des mods, qui avaient créé tout un tas de trucs. Et Edmund MacMillan a dit, pas de problème, ça devient canon, l'intègre. Je l'intègre dans le truc, ça arrive souvent dans le jeu. Je trouve que c'est moins possible ou moins simple. C'est plus imperméable entre les frontières fanfic et films et canons, discussions avec les boîtes de prod, les réalisateurs ou ce genre de choses.
Ouais.
Mais de toute manière, ça montre bien que c'est vivant, etc. et qu'il se passe des trucs et que d'ailleurs, quand les fans s'en emparent, même avant même de faire des fanfics, ils ont une influence réelle dans le bon sens, pas forcément commerciale. Par exemple, je vais faire court, mais Sonic n'aurait pas la tête qu'il a dans les films si les fans n'avaient pas dit qu'est-ce que c'est que ce cirque.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Voilà. Il y a vraiment. C'est très sain ce genre de truc. Moi, je suis totalement pour ça.
Ouais.
Et je suis en train de voir, notamment sur les réseaux sociaux, ça avec l'utilisation qui est faite de l'IA. Maintenant, il y a pas mal de gens qui font des choses incroyable, il faut quand même être honnête. Alors, ça tue du métier. Effectivement, ça rend très précaire et fragile tout un tas de créatifs, peu importe d'où ce qui se trouve. Mais il y a des gens qui font des choses un peu éthiques, qui commencent à l'utiliser de manière très intelligente pour nourrir la création et pour réaligner des choses. Et moi, je trouve que c'est ça extrêmement intéressant. Et notamment, pour terminer là-dessus, regardons un peu ce qui se passe, d'où part la licence Harry Potter, on a dit avec la série qui arrive, où est-ce qu'elle en est, ce qui s'est passé avec les jeux vidéo, de manière un peu politique par rapport aux prises de position de la créatrice originale, qui a fâché un certain nombre de communautés. Et je m'arrêterai là puisqu'on ne va pas discuter de ça, mais voilà, donc c'est des choses toujours très saines, ce que font les fans, vivent les fans, et c'est pour eux, par eux, et ça finit avec eux de toute façon.
Ouais. Allez, on enchaîne avec toi.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Jeux vidéo.
Mais oui, jeux vidéo, mais jeux vidéo d'action, et d'action plateforme et exploration. Et ben, on va parler de Castlevania. On vient d'écouter la reprise de Final Tocata, Final Tocata, pardon, décidément. Qui est un titre originellement dans Castlevania Symphony of the Night, le premier sorti sur PS1 et qui a fait entrer la série des Castlevania dans l'ère des RPG.
Ouais.
Et donc c'était une excellente reprise de Tim Stoney. Et la raison pour laquelle on en parle, c'est que Konami a enfin dit que montré, on a un trailer magnifique. Okay. Ça y est, Castlevania revient. Et dans la tradition et dans son jus, ce sera toute plateforme avec Castlevania Belmont's Curse et en plus Cocorico. C'est réalisé par deux studios fabuleux qui sont Evil Empire et Motion Twin, qui sont responsables de Dead Cells, qui est un gros banger du Rogue. Et d'ailleurs, on avait eu une sorte de petit teaser parce que quand il y avait les add-ons qui sortaient sur Dead Cells, il y avait eu un add-on qui faisait hommage à la série Castlevania et on se serait jamais attendu à ce qu'on leur, à ce que Konami leur dise « On a adoré, en fait, vous allez faire le prochain Castlevania ». Donc ça, c'est vraiment super. Rappelons que... j'adore dire ça. C'est les 40 ans de cette série Castlevania.
Ah oui, quand même, hein.
Voilà. Puisque c'est sorti l'année de ma naissance, et donc c'est le 40e anniversaire de la série Castlevania. Et dans la manière dont le teaser est sorti, dont l'annonce était faite, on sent que c'est pas la seule surprise que Konami nous réserve pour la licence. Donc c'est le grand retour de Castlevania. Ça fait tellement plaisir. Oui, absolument. Et alors, pour parler un peu du jeu, là où ça se situe, donc Belmont's Curse, donc c'est la malédiction des Belmont.
Ouais.
Pour les fans de la série, vous savez que un des personnages le plus aimé au Japon et chez nous, notamment, on le voit quelquefois dans les conventions de cosplay, c'est Alucard, le fils donc de Dracula. Et comment est-ce que ce fils est arrivé ? Eh bien, le rôle va se concentrer sur sa mère. Elle a eu ce fils avec justement Dracula et c'est elle l'héroïne du jeu. Ça se passe à Paris. Au 14e siècle, on a de très belles images de Notre-Dame, etc., avec des trucs un peu démoniaques. Donc, ça, c'est absolument fameux. La DA est folle.
Ah, intéressant,
le gameplay est vraiment super. On est vraiment dans du Metroidvania. On saute, on explore en 2D. On va déclencher des choses qui nous permettent d'aller plus loin. Il faut faire un peu de recherche. Ça va vraiment être aux petits oignons. Je suis tellement hypé. C'est bien simple. La semaine où sort ce jeu, vous ne m'entendrez pas à l'antenne. Je serai chez moi en train de jouer.
Bien.
Voilà pour Castlevania. On salue. Oui, ça va être très très bien. Allez, on enchaîne.
Thank you.
The Last of Us.
Bravo. Effectivement, donc là, on a eu un doublé avec Longing, le premier thème que j'ai entendu, et The Last of Us Partie 2 pour le deuxième, tout simplement, composé par Gustavo Santaolalla, un très bon compositeur qui utilise beaucoup les cordes, donc tout ce qui est guitare, banjo, c'est assez... assez acoustique et simple dans la manière de composer.
Ce qui rend la chose très filmique d'ailleurs.
C'est exactement. Et ça marche très bien avec l'univers de The Last of Us, dont bien sûr vous connaissez, sorti en 2013, et puis il y a eu la partie 2, puis après il y a eu aussi d'autres produits dérivés, puisqu'il y a eu une série.
La série avec Pedro Pascal.
Exactement, avec la saison 3 qui est en tournage actuellement. Ouais. Et aussi, il y avait un projet qui était censé se faire, qui était un jeu The Last of Us Online, où en fait on était pouvoir censé jouer en duo, mais ce jeu, si vous ne le savez pas, a été annulé. On en apprend un peu plus sur cette annulation, sachant qu'en plus le jeu était terminé à 80% lorsqu'il a été annulé. Ça fait un peu mal. Et donc le réalisateur du jeu, qui n'est pas Neil Druckmann ce coup-là, mais qui est, j'ai plus son nom, mais voilà, il avait, si c'est Lance Lee, il avait déclaré que, en fait, il fallait décider si ça allait être ce jeu-là ou le prochain de Naughty Dog, qui du coup est en train de se faire et qui du coup, sera ce prochain jeu-là, parce qu'il a dit que voilà, c'était le président qui décidait, et voilà, il avait décidé de se concentrer sur le prochain jeu qui sera, je crois que c'est un jeu dans l'espace, parce que ça s'appelle Intergalactic The Heretic Project, donc c'est le prochain jeu de Naughty Dog. Et il avait dit qu'il il était assez triste et que c'était dévastateur pour lui, parce qu'il avait quand même passé 7 années sur le projet de The Last of Us Online, un jeu qui aurait pu être assez sympathique. Voilà, ça prouve que bon, des annulations de jeux et même de films, en général, il y en a pas mal, même quand c'est bientôt la fin du projet.
En effet.
Bon, ça fait un peu mal. Neil Druckmann dit aussi qu'il y a potentiellement The Last of Us Partie 3 qui arrivera dans quelques années. On peut attendre encore un peu longtemps quand même.
Mais, alors oui, après peut-être que quand c'est un film, ça fait c'est terrible parce que c'est très difficilement réutilisable. Oui. Après, pour un jeu, on peut reprendre des assets, on peut faire des choses. Donc c'est sûr que le projet tel que annulé à 80%, ça doit être terrible. Mais je pense que quand même rien, entre guillemets, tout cela n'est pas perdu définitivement. Ça peut s'orienter autrement.
Ça peut être utilisé, pourquoi pas, s'il y a un The Last of Us 3 qui sort, de faire aussi un mode online dedans. Enfin, je sais pas, mais c'est une possibilité. Mais c'est sûr que bon, ça a dû lui faire un petit choc.
C'est sûr. Bon, petite déception pour les fans qui nous écoutent.
Oui.
Mais vous inquiétez pas, ça revient bientôt.
Allez, mon Chanel, avec toi.
Thank you.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Alors,
on est sur un film.
Oui.
Bon, j'en ai déduit par plusieurs choses que c'est Daniel Elfman, le compositeur.
Oh oui, absolument.
Mais voilà. Quel film ?
Alors, c'est un rattrapage de ma part, et c'est un rattrapage notamment parce que la petite actu autour de ce film, c'est qu'il est disponible sur les plateformes, en tout cas il est devenu visionnable. Et il s'agit du Dracula de Luc Besson, sorti l'année dernière. Et je ne l'avais pas vu parce que le teaser ne m'avait pas donné envie d'aller au cinéma pour le voir. Et je suis, et en plus, ce qui me semble très drôle dans le timing, mais quelquefois les boîtes de prod ne choisissent pas, c'est qu'il est sorti très rapproché du Nosferatu que j'ai vu et qui est sorti aussi l'année dernière. D'ailleurs, ce qui lui était vraiment très bon, j'ai bien aimé. Pour parler de ce film, alors. Sa musique est tout à fait délicieuse parce que Danny Elfman, ça c'est très très bien, mais
Pour le reste, il souffre tellement mal la comparaison avec celui de Francis Ford Coppola dont il prend une grande partie de ses intrigues. et je trouve ça tellement dommage parce qu'en réalité, il y a plein de bonnes idées dans ce film. Parlons des points qui vont. L'idée de nous transposer ça à Paris, c'est super. De mettre ça dans la belle époque, c'est oui. Avec cette histoire d'asile pour la copine de Mina Harker, etc. Un peu folle, ça marche bien. De laisser Van Helsing sans jamais dire son nom dans son rôle de prêtre, ça peut fonctionner. Au casting, il y avait quand même Christoph Waltz pour l'interpréter, formidable. Mais il n'en fait rien de tout ça. L'écriture personnage est dramatique, tout va trop vite, ça ne marche pas. On veut nous expliquer une histoire d'amour qui traverse le temps et les siècles, mais c'est mal amené, c'est très étrange. Il y a toute une partie sur le parfum que ferait Dracula que je trouve qui ne marche absolument pas. Ça gomme une partie de ses pouvoirs, de tout ce qu'il a, etc. Les choix de narration sont mal cousus. C'est un film qui va trop vite, dont on comprend du coup mal ce qu'il se passe, même si on tente de nous les amener d'une certaine manière. Ça marche pas et ça souffre, je le répète, tellement mal la comparaison avec celui de Coppola que ça tombe complètement à plat. C'est une infinie déception, alors que j'adore vraiment le personnage de Dracula et que je suis prêt à en voir un certain nombre sans aucune difficulté. Par exemple, j'ai adoré la production en 3 épisodes, je crois, ou en 4 épisodes, une mini-série de la chaîne britannique, je crois, c'est CBS, qui marchait très bien, où Van Helsing est féminin. Enfin, il y a plein de super adaptations de cette chose-là. Là, Luc Besson a quand même les moyens avec EuropaCorp, il ne faut quand même pas déconner. Ça aurait pu être vraiment incroyable et je trouve que ça tombe vraiment à l'eau. Donc, voilà, déception, mais je voulais quand même le passer parce que ça y est, je l'ai rattrapé. Et puis c'est Danny Elfman, et Danny Elfman, on l'aime.
Quand même.
Voilà. voilà. Donc, c'est un mouais sur 20.
Très bien. Allez, j'enchaîne.
Ah. Minecraft.
Oui, bien sûr, c'était le thème Mice on Venus, un thème connu de Minecraft de C418. Ici, dans une réorchestration, on va dire, de Blake Robinson, qui a fait certaines des musiques de Minecraft avec enfin version orchestrale si on peut appeler ça comme ça.
Oui.
Donc très sympa à écouter. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que Minecraft a sorti sa nouvelle mise à jour, la 26.1. Ça commence à faire.
Oui, ça commence.
Parce que vous savez
faire,
que Minecraft est un jeu qui sans cesse évolue encore et encore.
Oui.
Alors, ça reste une petite, entre guillemets, mise à jour. C'est une refonte visuelle de tous les mobs bébés.
Oui.
Parce que, bon, globalement, quand on regarde un peu les mobs dans Minecraft, c'était les mêmes, mais petits avec une grosse tête. Enfin, c'était le zombie, bah, c'était le même, mais rétréci. Bon, ils ont tout refait. Par exemple, il y a des poussins au lieu de poules petites.
Oui. Oui.
Voilà, en tout cas, donc une refonte visuelle et sonore de tous les bébés créatures. Ça fait quand même plus de 35 mobs, je crois.
Oui.
Et du coup, pour aussi accompagner ça, il y a un nouvel item, le pissenlit doré, qui permet d'empêcher des bébés animaux de grandir.
D'accord.
Pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment, vraiment concentré sur la mignonnerie. Donc, si vous êtes fan de mignonnerie, il ne faut pas hésiter. Ils ont ajouté aussi l'instrument trompette pour les blocs musicaux, si on parle un peu de musique.
Voilà.
Pourquoi pas ?
Très bien.
Mais voilà, donc une mise à jour vraiment pour les gens qui sont fans de tout ce qui est mignon et petit. Et ça rend le jeu un peu plus, on va dire, pas réaliste, mais voilà, il y a des choses un peu plus jolies visuellement, on va dire.
Minecraft est le pur exemple de ce type de jeu bac à sable sandbox, où il peut y avoir le meilleur comme le pire, et c'est très intéressant de voir quel produit dérivé il est devenu, y compris jusque dans un film avec Jack Black et Jason Momoa. Bon, ça on en pensera ce qu'on voudra, mais voilà, il y a quand même des aventures Minecraft, il y a des jeux Minecraft un peu couloirs qui sont sortis, etc. Mais à la base, c'est tellement, le concept est tellement génial. Il a tenté d'être copié. Il a donné naissance à tout un tas d'autres trucs. Je pense au brain rot, à tout ce qu'on voudra,
bien
etc.
Sûr.
Il est impressionnant, et de savoir que le matériel de base, son cœur, son Nexus, continue de s'inventer, c'est très beau, hein, mesdames et messieurs. Le jeu vidéo, c'est infini. Ne vous trompez pas. C'est une œuvre d'art. C'est un secteur d'art majeur.
Ouais.
Voilà.
Allez, on va probablement conclure avec toi.
Oui, c'est parti.
Mystère.
Et oui, nous avons écouté le thème de Max dans le film Cape Fear en anglais, mais Les nerfs à vif en français, qui est un classique de chez classique. C'était composé par Elmer Bernstein, grand nom de la musique de film. Et alors ça, c'est la musique du remake de Scorsese, du film de 62, d'accord, qui était déjà un classique, mais ce film-là est absolument fabuleux. 92, si je fais ça oui, de mémoire, avec De Niro dans le rôle de Max Caddy, Nick Nolte dans le rôle de Bowden. Donc c'est un classique des chez classiques parce que c'est une véritable confrontation avec, avec de l'angoisse, de la suspicion, des révélations. Enfin, le film est vraiment exceptionnel. La version de Scorsese est pour moi vraiment un pur chef-d'œuvre. Et là, eh bien, nous allons avoir le droit à la série. Donc, sur l'histoire des nerfs à vif, et ça a l'air absolument fou, notamment à son casting. On va avoir Amy Adams dans le rôle de l'épouse, Patrick Wilson dans le rôle de l'avocat Bowden, donc de Tom Bowden. Oui. Et c'est Javier Bardem qui va nous faire un Max Caddy totalement, voilà. Bon, on connaît l'histoire, mais Javier Bardem est vraiment un acteur aux multiples facettes. Il est incroyable, mais quand il se met à jouer les méchants et les types dérangés, déjà la performance de De Niro était complètement scotchante. Mais alors là, l'imaginer dans le rôle, moi, ça me file des frissons.
Ouais. Bah, je repense à No Country for All Men.
Voilà, No Country, exactement, là en tête, avec cette coiffure ridicule, impossible, qui le rend encore plus bizarre.
Ah là, ouais.
Voilà, le voir dans le rôle de Max Caddy, moi je vais pas bouder mon plaisir, voilà, ouais, de se dire on va faire ça en série. J'aime bien les séries parce qu'elles ont une autre manière de raconter.
Ouais.
C'est pas les mêmes réels, c'est pas la même narration. Et même si tout le monde connaît le scénario des nerfs à vif, bah, ça donne envie de voir ce que ça va donner.
Forcément.
Bon, voilà, on a pris grand plaisir à vous parler de toutes ces actus, ces coups de cœur ou ces déceptions. Hein. C'est, y a de tout dans les séries, le jeu vidéo et les films, et surtout parce que on peut voir et écouter des choses. Faire les deux surtout
en même temps.